du synthétiseur modulaire sur Radio Vassivière. C'est Julien Boudard avec le titre Gorgo. Julien Boudard qui sera en concert ce week-end. Nous sommes justement en compagnie de Ellie Kongs et Aurélien Glaise pour parler d'une exposition visible en ce moment à La Chaux sur la commune de Gensioux, proposée par La Pommerie, une exposition de gravures et de peintures de Frédéric Cochet, parcourant 20 ans de travail et une dizaine de livres. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de ce qu'on peut voir dans cette exposition et présenter le travail de Frédéric Cochet, on peut rappeler ce que c'est que La Pommerie, La Chaux, Ellie.
Oui, La Pommerie, c'est une résidence d'artistes, essentiellement, créée il y a assez longtemps, en 94. Je crois que c'est l'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne résidence d'artistes du territoire, et qui accueille donc depuis un peu plus de 20 ans des artistes, et depuis une dizaine d'années, c'est consacré à la création sonore. Ça a beaucoup évolué en 2014, quand nous sommes venus nous installer sur la ferme de La Chaux, où là, l'association est devenue en quelque sorte le pôle culturel d'un lieu transdisciplinaire, un lieu école, qu'on a tendance à présenter comme un lieu qui se consacre au savoir et savoir-faire lié aux questions environnementales. Et donc tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de tenter d'élaborer qu'est-ce que l'art a à faire dans un lieu comme celui-là. Et donc d'une certaine manière, sa dimension, la dimension sensible liée aux questions environnementales et le sonore, précisément la création sonore, ou en relation avec la musique, c'est peut-être justement une dimension environnementale de la musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un point d'écoute, qui serait une sorte d'oreille pour laquelle la musique serait faite. Mais c'est plutôt l'oreille qui est prise dans l'espace et qui peut comme ça être touchée par le sonore. Et donc... La Pommerie, c'est ça aujourd'hui, c'est accueillir ce type de création, mais c'est aussi beaucoup faire en sorte que ce lieu puisse fonctionner. Donc on est dans un vaste programme de réhabilitation du site, et l'association porte aussi toute une dimension de recherche en humanité environnementale, c'est-à-dire sciences humaines liées à l'écologie, philosophie, sciences humaines liées à l'écologie.
Et on ne va pas parler de son tout de suite, parce qu'on va plutôt parler d'une exposition. On peut voir des gravures, un livre alchimique ou un tarot. Alors, qui est Frédéric Cochet et quel est son travail ? Aurélien, tu peux, je pense, nous en parler.
Oui, alors, Frédéric Cochet est un graveur nancéen qui vit en Espagne maintenant. Et à qui j'ai commandé il y a 2 ans une mise en scène graphique, hein, comme un roman graphique muet, sur le ring de Richard Wagner. Ça vient à la suite du projet éditorial précédent porté par La Pommerie, que j'ai fait avec eux, et qui était donc une monographie sur le ring de Frank Castorf, la mise en scène à Bayreuth entre 2013 et 2017, qui a donné lieu à un gros volume illustré. Voilà, et on cherchait une suite à ce projet-là. Et donc j'ai contacté Frédéric, et Frédéric au départ voulait intervenir éventuellement dans une réédition du livre sur Castorf, et puis finalement s'est retrouvé à non pas faire 5 ou 10, mais 75 gravures. Et donc il a été artiste en résidence à La Pommerie, résidence pendant laquelle il a fait ce qui est devenu donc ce qui est une suite de gravures qui s'appelle Brynhildr, qui est l'orthographe médiéval du nom Brynhild, plus connu que l'héroïne donc de l'opéra de Wagner. Et donc il a fait cette résidence, il a fait la suite de gravures, est sorti un livre au printemps dernier chez Frémok, l'éditeur de bande dessinée de Bruxelles, qui est son éditeur habituel. Et ce livre contient aussi un essai, un entretien avec Frédéric, fait en Espagne, avec l'historienne de l'art Gladys Le Cuff, voilà, qui écrit régulièrement sur la bande dessinée aussi, en plus de son travail académique. Et elle a écrit aussi un essai d'une trentaine de pages qui clôt le livre en question, le Brynhilde. Et tout ça lors d'une résidence d'écriture à la Pommerie, toujours. Voilà. Donc il s'agit d'un... Et l'exposition est une sorte de coda à cette espèce de grand cycle Wagner, qui n'est pas exactement de la musique expérimentale, mais enfin... mais ça l'était en 1876.
À son époque.
Voilà.
Bah justement, on peut en parler un peu de cet opéra de Wagner, parce que pour ma part, je ne connais pas beaucoup Wagner, et j'ai l'impression que, voilà, rien que d'en parler, un peu un opéra de 15 heures qui parle un peu de mythologie nordique, on imagine quelque chose d'assez grandiose, et surtout, qu'est-ce qu'on fait, Frédéric Cochet ?
Alors, Frédéric Cochet reprend quelque chose quand même de la mise en scène de Frank Castorf. Je crois que d'ailleurs c'était une des premières mises en scène qui voyait, parce que c'est pas non plus un Wagnerien. J'ai dû un peu faire le médiateur. Il a fait, disons. C'est le principe de son travail est toujours plus ou moins le même, c'est-à-dire qu'il y a un volet... Enfin, son point de départ, ce sont des grands récits, alors grands récits mythologiques, grands récits, justement... Enfin, grandes structures d'interprétation, comme l'alchimie, le tarot, des théories, disons, de l'inconscient, des théories plutôt type Jung, voilà, des grandes machines d'interprétation. Et où il a fait une série de gravures sur l'Odyssée aussi bien d'Homère. Et ensuite, il met comme des bâtons dans les roues de ces grandes machines. C'est-à-dire qu'il essaie de fabriquer des micro-récits à l'intérieur de ces grands récits-là, qui sont alors des choses qui sont des, je sais pas, ce sont des décalages ou des manques, ou des, il y a des personnages en plus, des personnages en moins, il y a toute une série de toutes petites transformations qui fait que c'est pas exactement Wagner. Et d'ailleurs il s'est documenté, il dit que ce Brynhilde, c'est pour ça que ça s'appelle pas l'anneau du Nibelung, ça s'appelle Brynhilde parce que pour lui le héros ça n'est pas Siegfried, c'est sa compagne, la Valkyrie Brynhilde, et il interprète tout autant les sources de Wagner, enfin disons que son récit contient autant de sources de Wagner que de Wagner lui-même. Et voilà, donc c'est à la fois ça et pas tout à fait ça, mais ce geste là de destitution, disons, c'est quelque chose qui est porté par toutes sortes de mises en scène depuis très longtemps déjà. Ça fait longtemps que Wagner n'est plus la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now, quoi. Ouais. Enfin, le truc un peu massif, entraînant, les trompettes, la musique de Hans Zimmer, la musique de cinéma d'Hollywood. C'est plus ça depuis longtemps, mais donc, voilà. Là, c'est une version muette en bande dessinée, avec les moyens de la bande dessinée aussi.
Et alors, est-ce que lui, Frédéric Cochet, il essaye justement de cette œuvre un peu la descendre, peut-être où est-ce qu'elle pourrait être un peu grandiose comme ça, ou de lui donner peut-être une dimension comique avec des décalages ou des choses qui sont effacées, ou en faire revenir d'autres? Est-ce qu'il cherche ça?
Oui. Il cherche, comment dire, il a à la fois une très grande culture, visuelle, classique. C'est-à-dire qu'il y a constamment des citations dans ses œuvres. C'est d'ailleurs pour ça que c'était intéressant de faire intervenir une historienne de l'art, puisqu'elle est capable de débusquer
des petits trésors cachés.
Voilà, exactement. C'est pour la 3e, 4e ou 5e lecture. On se dit, ah, mais tiens, cet escargot, il vient de tel tableau, etc. Bon, c'est, disons, les plaisirs de l'érudition. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas que gratuit. Disons qu'il a à la fois cette culture visuelle classique, et puis il a une culture de bande dessinée aussi propre, qui fait qu'il a... comment dire, il se sert, enfin c'est ça qui lui sert de d'outil pour le décalage. Par exemple, il me faisait remarquer, enfin il en parle dans l'entretien, il me faisait remarquer le problème avec les mises en scène d'opéra, c'est que les personnages sont portés par des acteurs et les acteurs sont humains. En gros, avec des humains, on peut faire des choses, mais c'est quand même un peu limité. La bande dessinée, il n'y a aucune raison particulière de représenter des humains. On peut, mais on n'est pas obligé. Et il utilise ce moyen, qu'on retrouve aussi bien dans Maus de Spiegelman, j'ai l'impression, une moitié de la bande dessinée classique, qui est de faire que les personnages soient désanthropomorphisés. C'est-à-dire, c'est des animaux, c'est des... en l'occurrence, tous les dieux, c'est des spermatozoïdes ou des méduses, on ne sait pas très bien. Et une fois qu'on a ce genre de choses-là, disons, les choix de représentation sont des espèces de chaînes de catastrophes. C'est-à-dire pour donner un exemple, à un moment, il y a un personnage qui vit dans une maison, et cette maison est structurée autour d'un arbre géant. Ce personnage s'appelle Hunding. Et donc, comme Hund, ça veut dire chien en allemand, et qu'un chien, ça vit parfois dans une sorte de cabane à chien, enfin de niche, enfin voilà. Donc cette niche, et donc Hunding devient un chien, et ce chien vit dans sa niche qui est adossée à un arbre. Et quand l'antagoniste de Hunding vient, qui s'appelle Siegmund, comme c'est un des héros du deuxième opéra, La Valkyrie, donc ce chien est un chien noble, puisque Hunding étant l'antagoniste, c'est un chien une sorte de bâtard qui ressemble pas à grand chose. Et donc voilà, et donc les choses se passent comme ça, les choses ricochent. C'est-à-dire que ça commence par une attention au signifiant. Voilà, dans Hunding, il y a Hunt. Et puis tout à coup, on en tire une conséquence, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et l'univers se remplit comme ça, de choses qui soit s'éloignent, et puis à un moment se rapprochent du texte original. On ne sait pas trop comment on est arrivé là, mais tout à coup, on se dit « Ah, mais tiens, ça, c'est vraiment comme dans Wagner », alors qu'en réalité, c'est le résultat de 10 écarts successifs qui finissent par « on ne sait pas trop comment retrouver le truc ». Voilà, c'est un peu comme ça qu'il travaille. Et c'est vrai pour quasiment tous ces autres livres, en fait.
Et justement, là, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir des planches originales qui ont servi à la publication de Brynhildr, et aussi, j'imagine, une anthologie de tout ce qu'il a fait depuis son début.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que sur des tables, il y a plus de 80 gravures qui couvrent 20 ans de travail.
Uniquement des gravures ?
Alors, sur les tables, uniquement des gravures. Okay. Ce sont toutes des eaux-fortes sur zinc, donc ça ressemble à du dessin, mais ça n'en est pas. Ce ne sont que des tirages. Alors, c'est des tirages très courts, c'est sur 5 en général, mais ce ne sont pas des dessins. Et quelques aquatintes, alors qui est un autre procédé de gravure sur cuivre et qui donne l'impression d'être des peintures en noir et blanc. Parce que c'est juste pas la même technique. Et ça, c'est l'Odyssée, spécifiquement. Son Odyssée, elle est faite avec cette technique-là. Ça introduit une variation qui est immédiatement visible. Après, il y en a elles ont en gros 3-4 formats différents. C'est pas très grand, c'est à la taille, c'est reproduit en général dans les livres à la taille originale, ou quasiment à 10% près. Et au mur, il y a des peintures, de très très grandes peintures de 2 mètres. 20 sur 1m60, qui sont extraites toutes de son avant-dernier livre, qui s'appelle L'homme armé, qui est une histoire de super-héros, plus ou moins. qui discute avec le genre, disons, le genre super-héros super-héros américain. Mmh. Ouais. Donc le personnage est une sorte de Hulk rose voilà, qui a toutes sortes d'aventures.
Édité chez Framoc aussi.
Tout est édité chez Framoc sauf un, ouais.
Et voilà, il y a d'autres, il y a sur les tables, sur les murs et.
Et à part le concert, voilà, pour l'instant, c'est tout.
Donc je rappelle que cette exposition est toujours visible jusqu'au 31 octobre. Les jours, c'est les mercredis, samedi et dimanche de 14h à 17h. Ce sera fermé le 30, je précise. Mais aussi, c'est possible sur rendez-vous par téléphone ou par mail. Pour prendre rendez-vous, le numéro de téléphone, c'est le 05 55 64 54 37 ou le mail, c'est info@lapommerie.org. Et il y a un événement ce week-end, c'est aussi pour ça qu'on est en direct aujourd'hui. C'est un concert de Julien Boudard, un concert de musique électronique. Alors on peut un peu présenter la musique de Julien Boudard, qui avait fait une résidence d'ailleurs à la Pommerie.
Oui.
Peut-être plusieurs, non ?
En fait, il est venu jouer. Une fois précédemment, pendant les rencontres l'année dernière. En effet, il a fait une résidence, mais il y a 2016 peut-être, j'ai plus exactement
la date. Ça commence à faire.
Voilà. cette résidence, il l'a effectuée avec Anaïs Rousset, avec qui il travaille, pour un projet bien spécifique, textile making, qui consistait à trouver des formes de patterns entre un métier à tisser et un travail musical, sonore.
Et une histoire de fantôme aussi, un peu de...
Alors oui.
Il me semble à ce moment-là, c'était un... Enfin...
voilà, bon. Et donc, en effet, ça a été une installation. Une installation, ils ont bravé le froid pendant plusieurs semaines, mois, pour réaliser cette création qui a donné suite, hein, d'ailleurs, puisqu'ils sont toujours aujourd'hui à travailler sur une relation entre le métier à tisser et la fabrication de sons. Le concert qu'on accueille là, c'est de Julien Boudard. Il travaille à partir de synthétiseurs modulaires, donc ce sont des formes de synthétiseurs qui produisent des sons liés à des systèmes électroniques. Mais disons que... et donc l'idée de ce concert, c'est vraiment une résonance avec l'exposition. Donc c'est pas un concert à côté de l'exposition. En fait, ce qu'on aurait aimé faire peut-être même davantage dans le cadre de cette exposition, c'est de proposer des résonances à l'œuvre de Frédéric Cochet. Par exemple, ça aurait pu donner lieu à une conférence Nietzsche contre Wagner, quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on n'a pas fait, pas encore, on fera peut-être. On a proposé à Julien un concert dans le cadre de Frédéric Cochet, dans l'exposition Frédéric Cochet, notamment autour de L'homme armé. L'homme armé qui est une chanson médiévale.
Voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de messes. Ouais. Il y a des messes de L'homme armé. Il y a peut-être une quarantaine d'usages... répertorié de la mélodie dans le répertoire médiéval et renaissance.
Donc ça, c'est un livre de Frédéric Cochet, donc il reprend cette formule. La proposition de Julien, c'est de jouer à l'intérieur de l'exposition. Mmh. Donc c'est une installation qui...
Donc l'exposition est dans la grange.
Il y a une salle d'exposition qui est une grange.
Ouais.
Et Julien va jouer à l'intérieur de la grange en diffusant le son en quadriphonie, c'est-à-dire avec des haut-parleurs aux quatre coins de la salle. Et donc chacun va écouter le concert depuis le lieu d'exposition. Et donc, en quelque sorte, il sera possible de déambuler dans l'exposition pendant la performance musicale. L'idée de ce concert, c'est une résonance, mettre en résonance l'œuvre de Frédéric Cochet avec un travail musical, sonore.
Et on peut en profiter aussi pour parler des futures choses à venir, de la pommerie. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à venir, en ce moment à venir, quels sont les travaux?
Alors l'actualité est complexe. L'actualité, c'est une résidence du collectif RYBN qui est passée, qui a fait une première session cet été. Leur travail, c'est beaucoup lié aux outils du numérique qui ont colonisé l'espace social et notamment les échanges économiques. Et donc, ils ont beaucoup travaillé sur l'élaboration de robots qui sont des formes de pastiche ou de forme de pour un peu déjouer les outils qui sont utilisés dans la finance, etc. Donc ils ont réalisé une œuvre. C'est un vaste programme depuis une dizaine
d'années. C'est plutôt sonore.
C'est un vaste programme depuis une dizaine d'années, excuse-moi, j'arrive. qui est passé par des faux robots traders pour déjouer certaines opérations financières, par mettre en quelque sorte, aller révéler, c'est un peu le passer l'œil par le trou de la serrure des outils de la fabrication de la finance. Et en effet, il se trouve que c'est une invitation. On a invité collectif RYBN à cette résidence parce que ce sont des personnes qui nous accompagnent depuis très longtemps et qui sont venues à de nombreuses reprises ici et notamment qui ont formé un groupe dédié à leur passage lors des rencontres de la pommerie qui s'appelle le TCP Dump Orchestra. Et c'était une quelque chose. Et ça, ils le font comme des amis de la cause. Et d'une certaine manière, notre invitation, c'était de les faire venir spécifiquement pour qu'ils réalisent une partie de leur travail. Et donc, l'un des aspects de leur travail consiste aussi à travailler dans les archives. Ils ont réalisé une vaste enquête sur les paradis fiscaux. Et leur idée, là, c'est de poursuivre leur enquête sur les paradis fiscaux et de travailler aussi sur les archives de la pommerie. Voilà. Alors après, pour répondre à la question, l'essentiel du travail aussi que nous élaborons actuellement consiste à organiser un certain nombre de journées d'études sur les questions de stratégie de préservation de la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment plutôt sur l'aspect science environnementale et humanité environnementale. Mais en quelque sorte, ça va fabriquer les prochains mois de programmation à la pommerie.
On en parlera sur Radio Vassivia, bien sûr. Et alors, avant de se quitter, on parlait d'une publication, hein, justement, de Frédéric Cochet. Est-ce que c'est possible d'en trouver ici, éventuellement à la Pommerie ou à Aimoutier ou...
Alors, on peut le trouver à la Pommerie. Il y en a aussi en dépôt à la librairie d'Aimoutier.
Passe-temps, la librairie
Passe-temps. Et c'est à peu près tout dans le coin. Et ensuite, on le trouve à Page et Plume, à Limoges aussi, mais dans un réseau de distribution tout à fait classique. Quoi. Donc on peut, voilà. Mais tous les livres sont visibles et consultables à la Pommerie, peut-être, avant de...
Et oui, Ali, tu voulais rajouter?
Oui, je voudrais juste préciser que l'exposition, donc la Pommerie, est située sur la ferme de la Chaux, à Gensioux. Nous avons déménagé en 2014, donc... Que les personnes qui nous écoutent ne se rendent pas à Saint-Soutier.
Ni à la Ville-Dieu.
Ni à la Ville-Dieu, voilà. Donc nous sommes bien situés sur la ferme de la Chaux, à Gensioux.
Et aussi, on peut trouver aussi la publication, le livre, sur Internet, bien sûr. Okay. Alors, je vous rappelle que l'exposition d'œuvres de Frédéric Cochet est visible sur le site de la ferme de la Chaux jusqu'au 31 octobre. C'est inclus. C'est visible les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. Ça sera fermé le 30 octobre. pour, c'est possible aussi en dehors de ces journées-là par téléphone. Il faut prendre un rendez-vous au 05 55 64 54 37 ou par mail à info@gapommerie.org. Et bien sûr, ce week-end, vous pourrez assister à un concert de Julien Boudard au synthétiseur modulaire à La Chaux, donc à Jonciou, à partir de 18h. Et ben, merci beaucoup d'être venu dans le studio. Et on se quitte avec un autre morceau de Julien Boudard, Perseus. Et on se retrouve tout de suite après.